journal, Anne-Laure Chouin, bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Vers la fin de l'aide humanitaire en Cisjordanie occupée, c'est ce qui se profile alors que les visas des travailleurs humanitaires étrangers expirent petit à petit. Israël avait annoncé qu'ils ne seraient pas renouvelés.
Trump, grand gagnant républicain du Super Tuesday aux États-Unis, nous serons en reportage dans son camp au Texas.
Et puis en France, nous reviendrons sur le combat actuel de la droite, faire passer les mesures retoquées de la loi immigration par un référendum d'initiative partagée. À la fin de ce journal, votre question du jour, Marguerite Catan.
Nous parlerons de Bolloré, champion d'édition politique.
C'était le premier convoi humanitaire du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, depuis le 20 février. Il a été bloqué hier à Gaza par l'armée israélienne avant d'être pillé par les Gazaouis affamés d'une foule désespérée. C'est ce qu'indique ce matin l'agence onusienne. L'ONU, qui estime toujours que la famine est quasiment inévitable pour l'immense majorité des habitants de Gaza, notamment parce que l'aide humanitaire ne peut quasiment plus rentrer dans l'enclave. Une aide humanitaire qui est aussi en voie d'être stoppé en Cisjordanie occupée. Car depuis les massacres du 7 octobre, le gouvernement israélien a cessé de délivrer des visas pour le personnel étranger des ONG qui travaillent dans la région. Résultat, en presque 5 mois, 2/3 de ces travailleurs humanitaires n'ont déjà plus de visa. Ils doivent partir ou alors rester, mais dans l'illégalité. Quant aux autres, leur visa devrait expirer bientôt, rendant la situation extrêmement compliquée au moment où le soutien humanitaire est plus que jamais nécessaire dans cette région. C'est un reportage d'Alice Froussard.
Le visa de ce travailleur humanitaire a expiré fin 2023. Comme toute la profession et grâce à une procédure mise en place au début de la guerre par Israël, il a eu une extension automatique jusqu'au 8 février. Mais depuis cette date, plus rien.
Et depuis, je suis devenu illégal. C'est-à-dire que je suis dans une situation compliquée qui affecte à la fois ma présence sur le territoire et mes capacités d'opération pour mon travail. Car je ne peux plus me déplacer librement en Cisjordanie. Je ne peux pas aller à Jérusalem, je ne peux plus traverser de checkpoint.
Comme lui, ils sont près d'une centaine, sans visa renouvelé. Tous travaillent sur l'aide humanitaire à la population palestinienne. Firas Harouri est le coordinateur d'AIDA, l'association des agences internationales de développement à Ramallah.
Nous avons des cas où ce sont les postes de directeur pays des ONG ou d'autres cadres supérieurs qui n'ont pas été renouvelés. Parfois, nous parlons de petites organisations qui ne peuvent pas se permettre de perdre leurs employés clés, surtout en ce moment.
Une situation complexe pour tous et un résultat sans appel. Le secteur humanitaire se voit pratiquement expulsé de Cisjordanie, dénonce Firas.
Cette mesure, nous la voyons comme intrinsèque aux restrictions d'accès généralisées des ONG, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, car les expatriés d'autres secteurs ont vu leur visa étendu. C'est donc que le secteur humanitaire est visé. C'est une décision politique.
Les instances diplomatiques ont toutes été alertées, précise-t-il, avant d'en appeler à des actions et à une prise de position de la part de la communauté internationale.
Ils étaient, c'est le grand vainqueur de la séquence sans aucune surprise. Donald Trump a remporté presque tous les États américains qui votaient pour les primaires à la présidentielle de novembre, ce qu'on appelle le Super Tuesday. Aucun suspense non plus dans la primaire démocrate où Joe Biden n'a pas vraiment de challenger. La Californie, la Caroline du Nord et le Texas, par exemple, ont voté largement pour Trump, même si sa rivale Nikki Haley l'a privé d'un grand chelem en remportant le Vermont. Le Texas, où notre envoyée spéciale Sarah Mansoura a suivi la soirée électorale avec des électeurs républicains.
The Angry Elephant, l'éléphant en colère, c'est le nom de ce bar en référence au symbole du parti républicain. Mais ici, pas de colère, plutôt de la joie. Cathy Casquette, Make America Great Again, n'est pas surprise de cette victoire.
Not at all.
Pas du tout. Vous pensiez vraiment qu'on pouvait attendre un autre résultat?
C'est la meilleure chose qui pouvait arriver.
The best thing ever.
John a passé la soirée les yeux rivés sur les écrans géants. Il se dit heureux de voir l'ancien président, plus expérimenté, dit-il, largement devancer Nikki Haley.
Yes, I'm relieved.
Oui, je suis soulagé et enthousiaste quand vous voyez ce qu'il a mis en place pour aider les États-Unis et les Américains. C'est évident. Elle pourrait être bien pour le pays, mais je suis fatigué d'avoir une politicienne en campagne. Son temps viendra peut-être après celui de Trump.
Maybe her time may be later on after Trump's.
Tous ont soutenu Trump pour sa rhétorique très anti-migrant. Danny, tout sourire, se projette déjà vers l'élection de novembre. Il attend la confrontation avec Joe Biden.
Trump le battra largement. Il tient ses promesses, lui. On a besoin d'avoir ce mur à la frontière. Ça devient ridicule combien de millions de gens sont déjà arrivés ici. On a besoin de quelqu'un comme Trump. À son époque, il réglait les problèmes pour que notre pays soit en sécurité.
Comme un écho à ses paroles, Donald Trump est apparu sur les télévisions, saluant une soirée formidable. Il a immédiatement attaqué son rival démocrate, visant en premier lieu son bilan à la frontière.
Sarah Mansoura avec Alexandre Abergel. Joe Biden, qui à la peine dans les sondages, déroulera sa vision pour l'Amérique demain, jeudi, lors d'un grand discours de politique générale au Congrès. Le traditionnel State of the Union, il devrait y décrire ce que serait la vie sous Trump, candidat selon lui déterminé à détruire la démocratie américaine. Ils étaient retenus, certains, depuis plusieurs années dans des camps de détention en Libye, un passage toujours très dangereux dans le parcours d'exil des migrants qui souhaitent atteindre l'Europe. Mais hier, 97 personnes issues de ces camps sont arrivées à Rome en vertu d'un accord dont ils sont les premiers à bénéficier, un accord signé en décembre entre le gouvernement italien et une série d'organisations pour mettre en place des corridors humanitaires entre la Libye et l'Italie. 1500 personnes doivent arriver dans ce cadre en 3 ans depuis Rome, le reportage de Bruno Duvic.
Benvenuti in Italia.
Un comité d'accueil à l'aéroport. On est loin des images de Lampedusa. Aïcha, venue de Centrafrique, et ses 4 enfants auraient pu être dans les embarcations qui arrivent dans le sud italien. Elle a cherché à de nombreuses reprises à fuir les centres de détention libyens.
6 fois. On nous a arrêtés sur l'eau, on nous a encore ramenés en Libye. Toutes les fois, c'est la prison. J'ai été enfermée, battue, violée.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui peut entrer dans certains de ces terribles centres, a repéré des personnes particulièrement vulnérables parmi les milliers qui y sont détenus. Chiara Cardoletti est sa représentante pour l'Italie et le Vatican.
Les relations avec le pouvoir libyen s'améliorent. Nous avons un dialogue plus important, ce qui nous permet d'intervenir pour sauver des vies de réfugiés.
Le temps de l'examen de leur demande d'asile, le visa qu'ont reçu les exilés ne vaut que pour l'Italie. S'ils allaient ailleurs, ils retomberaient dans la clandestinité. Marco Impagliazzo préside la communauté Sant'Egidio, impliquée dans l'accord.
C'est un cadre légal pour les sauver qui implique les communautés locales qui les accueillent.
Car les organisations s'engagent à loger les exilés dans toute l'Italie.
Bruno Duvic.
7h07 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Enjeu de la présidentielle américaine à droite, cheval de bataille du gouvernement italien en France. Le sujet de l'immigration revient aussi dans l'actualité malgré une loi récente sur le sujet.
Oui, c'est la droite qui revient à la charge un mois après la censure partielle de la loi immigration par le Conseil constitutionnel. Le parti Les Républicains a décidé de soumettre à référendum quelques-unes des dispositions censurée par les sages, et pour cela il compte utiliser le RIP, référendum d'initiative partagée, la même procédure qui en 2018 protestait contre la privatisation d'aéroports de Paris. Les Républicains annoncent donc avoir déjà recueilli les 185 signatures de parlementaires nécessaires. Stéphane Robert.
Le parti Les Républicains a d'abord rédigé un projet de loi dans lequel il a réintroduit plusieurs dispositions de la loi immigration censurées par le Conseil constitutionnel. Il y a par exemple la transformation de l'AME, l'aide médicale d'État, en AMU, une aide médicale d'urgence qui ne prendrait plus en charge que les soins indispensables des étrangers sans papier. Une autre mesure prévoit d'allonger le délai de présence d'un étranger jusqu'à 5 ans sur le sol français avant de l'autoriser à toucher les allocations familiales. Et une autre encore interdit à un sans-papier débouté du droit d'asile de bénéficier d'un hébergement d'urgence. C'est ce projet de loi, avec toutes ces dispositions, que les Républicains veulent soumettre par référendum aux Français. Et ils ont franchi la première étape de la procédure, à savoir le recueil des signatures de 185 parlementaires. Avec le groupe au Sénat, plus celui de l'Assemblée nationale, le compte y est, de justesse, ils en auraient 187. Mais cette première étape était la plus facile à franchir. Désormais, le texte doit être soumis au Conseil constitutionnel, qui aura un mois pour se prononcer et valider la constitutionnalité des mesures proposées. Si c'est le cas, on passera alors à la troisième étape, la plus difficile, le recueil sur une période de 9 mois de 4 800 000 signatures, un dixième du corps électoral. Il y a 5 ans, le référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris avait échoué à cette troisième étape, qui avait seulement permis le recueil d'1 100 000 signatures.
100 euros net de plus par mois pour les salariés du public, 150 pour ceux du privé. Les salariés du secteur de la petite enfance auront droit à une revalorisation salariale, annonce faite hier par Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, et Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l'enfance. Le secteur souffre d'une grave pénurie de main-d'œuvre. Ces revalorisations sont destinées à attirer plus de salariés. On y reviendra dans le journal de 8 heures. Pas de condamnation requise par la procureure pour Roman Polanski, jugé hier en diffamation au tribunal correctionnel de Paris. La plainte avait été déposée en 2020 par l'actrice britannique Charlotte Lewis après que le réalisateur avait qualifié de mensonge odieux les accusations d'agression sexuelle qu'elle avait lancées contre lui. Le cinéaste est visé en outre par plusieurs accusations de viol et d'agression sexuelle depuis 1977. Et de ce fait, c'est le premier procès en France lié à ces accusations a eu du mal à rester centré sur les seules accusations de diffamation. Compte rendu d'audience d'Aurore Richard.
Ça a failli détruire toute ma vie. Charlotte Lewis, 56 ans, vêtue tout en noir, essuie quelques larmes. Elle parle du viol dont elle dit avoir été victime, mais aussi de la campagne de diffamation qui a été lancée contre elle à partir du moment où elle a accusé publiquement Roman Polanski en 2010. Un acharnement qu'elle a encore ressenti lors de ce procès.
Je suis très fière de moi. Je me suis comportée comme une dame. Je suis une dame. J'ai eu le sentiment que c'était mon procès, mais ce n'est pas le cas. Et je dois me rappeler que ce n'est pas moi qui suis jugée. Je suis vraiment étonnée que ses avocats aient pu aller aussi loin.
Pour l'avocat de Charlotte Lewis, c'est le symbole du système de dénigrement, de démolition mis en place par le cinéaste, absent lors de cette audience. Mais pour la procureure, la vraie question est de savoir dans quelle mesure Roman Polanski a fait ou non un usage abusif de la liberté d'expression dans l'article de Paris Match. La réponse de maître Delphine Meillet, avocate du réalisateur.
On a défendu la possibilité pour quelqu'un qui est mis en cause pour des faits extrêmement graves de se défendre, tout simplement. Et de se défendre avec la plus grande force, publiquement, tout autant qu'il a été accusé publiquement.
Et elle rappelle que l'objectif de ce procès n'est pas de déterminer si Roman Polanski a violé ou non Charlotte Lewis.
On termine ce journal par un problème de santé publique qui a mis du temps à être envisagé sérieusement par la communauté médicale, l'endométriose, dont c'est en ce moment la semaine européenne de prévention et d'information. Une maladie inflammatoire, douloureuse et invalidante qui touche 10% des femmes qui ont leurs règles, c'est énorme. Et pourtant, elle a longtemps été ignorée, sous-estimée, voire stigmatisée. En 2022, la France s'est dotée d'une stratégie nationale pour lutter contre l'endométriose, deuxième pays au monde à le faire, après l'Australie. Deux ans après, les choses commencent à bouger. On fait le point avec vous, Tara Schlegel.
Parmi les progrès importants, les filières de soins créées par les agences régionales de santé sont presque finalisées. Yasmine Kando, présidente de l'association Endo France, applaudit, mais nuance aussi.
Il est facile d'identifier dans chaque région de France des chirurgiens ou des médecins qui sont vraiment spécialisés en endométriose. Là, ce qui est plus compliqué, c'est de trouver des professionnels de premier recours, ceux qui vont aborder les soins primaires, c'est-à-dire les sages-femmes, les généralistes ou les gynéco-libéraux, parce que eux, qui sont en exercice actuellement, n'ont pas eu de formation initiale sur l'endométriose.
En effet, le diplôme universitaire endométriose n'existe que depuis 2020. Malgré tout, dans la société, poursuit Yasmine Kando, l'endométriose est de moins en moins tabou.
De plus en plus, les entreprises nous sollicitent pour qu'on vienne sensibiliser les salariés et les managers à l'endométriose.
D'où l'implication des médecins du travail qui peuvent proposer des aménagements de poste.
Par exemple, tout simplement une chaise faite dans un matériau plus souple qui va éviter le poids sur le périnée. Donc il y a des petites choses comme ça, créer des espaces ressources où la personne pourra aller se poser, faire chauffer une bouillotte, le temps d'action d'un médicament par exemple.
Enfin, autre avancée majeure, disent les associations, 15 millions d'euros sont désormais fléchés pour la recherche sur l'endométriose. Les appels à projets ont été lancés.
Le temps de ce mercredi, toujours très nuageux avec des averses sur un tiers nord ce matin, plus près des Pyrénées et de la Méditerranée. Le soleil domine, les températures 1 à 6 degrés ce matin, 9 à 12 cet après-midi, 14 vers l'Atlantique, 17 sur le Sud-Aquitaine et la Méditerranée. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec
Mais
vous,
voilà,
Guillaume Erner.
Absolument, Anne-Laure Chouin. Et dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton, Fayard, Hachette, Rollet, Bolloré est-il devenu un champion de l'édition politique ?